Genève. Côté. Nature.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Nature hebdomadaire Genève Côté Nature. Nous sommes sur Radio Cité, comme chaque lundi, et nous allons parler une nouvelle fois de nature et d'environnement.
Cette émission vous est proposée par l'association Nariès, que nous avons créée ma sœur Émilie et moi-même Virginia en 2012 et qui travaille pour la protection de la nature et des milieux naturels. Alors nous sommes biologistes de terrain, nous travaillons principalement sur les amphibiens sur le canton de Genève, mais nous avons aussi à cœur de réaliser un travail de sensibilisation pour que le public ait de plus en plus conscience de la beauté du monde sauvage qui nous entoure et qu'il sache comment le protéger.
Comme vous le savez, nous avons conçu ce programme radio en 4 volets qui tournent en alternance. Un côté vadrouille vous emmène en pleine nature et vous propose des balades que vous pouvez reproduire ensuite grâce aux cartes qui sont à disposition sur notre site internet www.naries.ch.
Nous avons aussi un côté astuce dans lequel nous vous donnons des conseils pour modifier vos habitudes au quotidien pour que vos manières de fonctionner soient plus en adéquation avec la préservation de notre planète.
Un côté science aussi dans lequel nous vulgarisons une notion scientifique où nous vous présentons le travail de scientifiques qui étudient un sujet en particulier.
Et finalement, nous avons un côté passion dans lequel nous allons à la rencontre d'un passionné passionnant pour lui poser des questions sur son métier, son espèce phare et son quotidien. C'est ce que nous vous proposons du coup aujourd'hui, un côté passion dans lequel nous allons vous présenter Jean-Laurent Régamet. Alors bonjour Jean-Laurent.
Hello.
Alors, avant de parler concrètement de ton travail, parle-nous un peu de toi. Est-ce que tu as toujours été un grand amoureux de la nature? Est-ce que tu as grandi dans une famille qui t'a transmis les valeurs du respect des animaux?
Oui, alors c'est un peu une facilité quelque part de se dire qu'on est un petit peu l'héritier. Mais effectivement, j'ai eu un grand-père maternel qui était très actif dans les années 30, et qui était trésorier de la Société Zoologique Genevoise.
Ah bah génial, forcément. Qui... la peau n'est pas tombée loin de là.
Voilà, qui a été aussi un ami de Hénard pendant une certaine période. Ouais. Moi, j'ai pas de souvenir particulier de leur relation, mais effectivement, dans ces années-là, quand ils étaient jeunes, ils allaient ensemble parfois sur le terrain. Il était prof de dessin au Collège Moderne et il était aussi sculpteur et graveur, un Hénard amateur.
Ok.
Hénard tranquille.
Donc rappelons juste que Robert Hénard, donc c'était un des grands naturalistes genevois, qui a fait les premières descriptions de la faune sauvage.
Oui, et qui faisait des gravures. Surtout, il a élaboré une technique de gravure par couche avec son impression, ouais. D'ailleurs, qu'on est allé visiter en sortie, ouais, nature en Ariès.
Et c'est vrai que son travail est assez incroyable.
Voilà. Alors bon, pour finir avec le grand-père, lui, il était plus sur des choses un peu plus noir-blanc. voilà. Il travaillait pas du tout de la manière de Hénard. Mais effectivement, il y a eu quand même cette influence qui a très très nettement compté. J'ai des souvenirs dans leur jardin, quand j'étais gamin, d'emprunter les jumelles du grand-père et puis d'aller regarder. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est que mon grand-père, qui était déjà âgé, qui avait déjà largement plus de 70 ans, était un homme très sage, quelque part. Et j'ai souvenir, notamment, quand j'étais tout minot, que j'avais 9 ans, quelque chose comme ça, de revenir en disant « Waouh, j'ai vu un casse-noix !» Donc une espèce, normalement, qui est plutôt alpine, pas vraiment sur le territoire genevois. En fait, ce que j'avais vu, c'était un étourneau. C'est un oiseau sombre avec des gouttelettes blanches, etc. Est-ce que j'ai rétrospectivement extrêmement aimé, c'est qu'il ne m'a pas détrompé. Typiquement, c'était le rêve, j'avais des étoiles dans les yeux.
J'avais vu un casse-noix,
donc
ça s'arrête là.
J'avais vu un casse-noix. Basta, c'était super, j'avais passé une bonne journée avec ses jumelles autour du cou. Donc voilà, c'est une certaine... je dirais que c'est une certaine école de sagesse, quelque part.
Tout à fait,
c'est chou, ouais.
Et alors, bon, bah, c'est pas tout de grandir dans une famille comme ça. Niveau études, à quel moment est-ce que tu as décidé que tu allais travailler dans le domaine de l'environnement? Et est-ce que tu as fait des études directement dans cette optique?
Alors, oui, mais c'est bien plus tôt, je dirais. La véritable passion, quand même, a commencé plus tôt. C'est vrai que quand on est tout gamin, voilà, 7, 8, 9 ans, voilà, on fait les choses un petit peu par imitation, dans un certain contexte et autres. Mais en fait, j'ai été très tôt quand même touché par cette question, je dirais notamment sur ce qu'on appellerait maintenant, depuis des décennies, la biodiversité. Mm-hmm. Enfin, à l'époque, quand j'avais cette
puissance... On ne connaissait pas ce terme, tout à fait.
Biodiversité, ouais. c'était
un peu flou.
Pas forcément un gros mot, mais c'était un mot inconnu, disons. C'était aussi pour beaucoup de gens un gros mot, d'ailleurs, à l'époque.
C'est vrai,
il faut quand
vrai,
même en être conscient. Ouais. Hein. J'ai même un petit peu un souvenir fondateur, je dirais, de ma passion pour les animaux, hein, parce que bon, l'environnement c'est extrêmement large, hein, on va pas commencer sur l'environnement gris, vert, noir et autres, mais effectivement c'est parti d'une passion clairement animalière avant tout, et un de mes premiers souvenirs précis d'enfance, donc j'évalue que c'était environ à 7 ans, ça a été mon petit bout de chou dans la salle de bain familiale, en train de piquer le rouge à lèvres de ma maman, et des bandes de gaz, enfin des carrés de gaz qui sont utilisés pour faire des compresses,
oui.
Donc, et d'avoir écrit quelque chose sur le carré de gaz avec le rouge à lèvres. Pourtant, j'avais des crayons et du papier, hein, s'il n'y avait pas de soucis, mais ça m'avait pris comme ça, je veux dire tout tranquillement. Et j'ai été punaisé ce petit bout de gaz coloré sur un poteau téléphonique juste à côté de la maison, et c'était marqué SOS Animaux. Je
oh,
me souviens que c'était SOS Animaux.
Chouette.
Donc ça, c'était à 7 ans. Alors, c'est vrai que quelque part, on peut se dire, maintenant, quand on y pense, oui, bien sûr, les médias, le bain ambiant, la manière dont on parle des choses,
oui,
etc.
Mais quand même.
Et autres. À l'époque, donc, ça fait 1970. Mm-hmm. On n'avait même pas la télévision. Mm-hmm. Donc, il y avait peut-être quelques trucs à la radio. Mais très clairement, il y avait vraiment une envie de l'animal.
Tout à fait.
Je dirais, quelque part.
Ouais.
Et j'étais un gamin extrêmement rêveur. Pas du tout calme au sens amorphe, mais extrêmement rêveur. Quand on partait en vacances, après une demi-heure, ma mère demandait si j'étais dans la bagnole parce qu'on ne m'entendait pas. Je regardais le paysage, simplement. Donc, pour moi, c'était les immenses temps d'une après-midi ou d'une matinée, y être dans un sous-bois, regarder un escargot bouger, etc., en temps réel. Et notamment, j'étais particulièrement bien dans les temps de pluie.
Ah.
Typiquement, quand il pleuvait, ma mère ne me voyait plus. Donc, je parle de 7-8
ouais,
ans,
ouais.
Généralement. Ouais, on est assez surveillé quand même. Bon, à l'époque, peut-être un peu moins. On était un peu dans une autre mouvance. Et typiquement, il pleuvait, ma mère ne me voyait plus. J'étais dehors. J'étais à quelques kilomètres. Peut-être un ou deux kilomètres
oui,
autour
oui.
de la maison, en train de gambader, etc.
Excellent. C'est vrai que c'est drôle parce que nous aussi, on a, quand on était petite, mis des panneaux. Alors nous, c'était à Fribourg, dans le village de nos grands-parents. Et on avait mis des panneaux « Attention, chat ». Parce que les gens arrivaient beaucoup trop vite dans le village. Et c'est vrai que pour éviter que les chats, parce qu'on avait déjà eu passablement de chats chez nos grands-parents qui sont passés sous les roues des voitures, donc pour éviter, on avait fait des grands panneaux « Attention, chat ».
Mais c'est vrai qu'il y a quand même la famille qui donne évidemment une impulsion, mais voilà, comme tu disais à l'instant, cet amour des animaux, cet attrait, tu l'as ou tu l'as pas, en
c'est
fait.
Ça, c'est ça.
Et en grandissant, à un moment, tu as mis un pied dans, quand même, avant qu'on parle du monde du travail, avant même les grandes études, qu'est-ce que tu as fait pour arriver à être dans ce milieu naturel?
Alors, très clairement, ma passion de base, c'est les oiseaux, c'est l'ornithologie. Et j'ai rencontré 2-3 personnes comme ça sur le terrain, et j'avais la chance, en habitant à Choulet, d'être assez près des marais de Sionnet, qui à l'époque n'étaient que des champs.
Oui, tout à fait, c'était pas encore le site ornitho qu'on connaît.
Voilà, avec des drainages, etc. Ouais. Donc c'était de la culture, avec simplement de la culture qui posait quelques problèmes de mouille de temps en temps, donc avec de l'eau qui restait. Alors, dans cette zone-là, il y avait la zone qui est actuellement la zone des Creuses, qui était utilisée par des cavaliers, en fait, comme zone d'entraînement pour le saut à cheval,
okay.
Avec des obstacles, etc. Et à 14 ans, en ayant quelques échassiers qui venaient de temps en temps là-bas, moi j'étais déjà intéressé, je venais voir, etc. On a décidé, avec une personne rencontrée comme ça au coin d'une haie, Denis Lordenberg, d'aller nettoyer la zone des Creuses. Ce qui n'a absolument aucun intérêt quelque part. Hein. faut être très clair, hein. C'est totalement naïf, ça n'a pas d'intérêt particulier. Mais enfin voilà, jeune, dynamique, on a envie de faire quelque chose. On a été une nuit de pleine lune à 2h du matin, transporter les obstacles de chevaux. Voilà, exactement, transporter les obstacles de chevaux pour les mettre sur le côté du chemin qui bordait le champ et que le champ soit net de ces obstacles. Donc ça c'était à 14 ans, grosso modo. Et puis, ensuite, il y a eu la période groupe des jeunes de nos oiseaux qui repartent à ce moment-là. Le groupe des jeunes était une instance qui était complètement tombée en désuétude, en fait, depuis plus de 10 ans, etc. C'est François Turian à Genève qui a remis ça en route. Et j'ai pris la responsabilité de la direction, entre guillemets, genevoise du groupe des jeunes, juste après Turian, en fait. Pendant 3-4 ans, okay. Je me suis occupé de ça. Et dans les premières actions qu'on avait faites, justement, moi j'avais été au cadastre, regarder qui étaient les propriétaires de ces zones de Sionnais, est-ce qu'on pouvait les contacter, combien ça coûtait, un mètre carré de champ, machin.
Ouais, déjà bien investi,
faire,
quoi.
Voilà, pour essayer de faire une réserve. C'était avant que ProNatura achète les terrains. Et je me souviens toujours, on avait, dans ces réunions du groupe des jeunes de nos oiseaux, on avait la chance d'avoir avec nous Paul Géroudet qui venait assister.
Wow.
Ça, c'est quand même quelque chose.
Une entité. Hein.
Faut quand même la reconnaître que pour une personne qui, basiquement, était assez bougon, en fait, assez, assez carré d'une certaine manière, assez bougon, il faut quand même reconnaître que c'est vraiment une grande attention que de venir coacher des petits jeunes entre 12 et 25 ans. Et je me souviens très bien d'avoir dit à une réunion du groupe des jeunes aux oiseaux ce que j'étais en train de faire, en train de regarder pour les propriétaires. Et ça avait rendu Géroudet furieux.
Ah oui,
bon, furieux d'une manière extrêmement contenue, donc il n'était pas du tout... C'était quelqu'un qui était très calme, d'apparence. Il a rendu complètement furieux. Ce qu'il pensait clairement, c'est « Mais qu'est-ce que c'est que ce morveux qui s'occupe des trucs des grandes personnes ?» Très, très, très clairement. Mais il n'empêche que, je dirais, 2-3 ans plus tard, grosso modo, ça a dû être le moment où il y a eu cette réunion des associations pour commencer l'achat de la zone des Creuses ou de ce qu'on appelait à l'époque la parcelle Cortée, de l'autre côté de la SEMA, etc.
En fait, donc, t'es un précurseur de l'apparition de Sionnais.
c'est très important de comprendre que quand on est, par chance, c'est vraiment de la chance, au bon endroit, au bon moment,
tout à fait.
On fait partie d'un courant. Ça aurait pas été moi, ça aurait été le voisin, ça aurait été Denis Landenberg, de toute manière, qui aussi a fait des trucs. Ça aurait été, de toute manière, il y aurait eu quelqu'un d'autre derrière qui l'aurait fait 2 mois plus tard, quoi qu'il en soit. Donc, il n'y a aucune, je dirais, il n'y a aucune fierté personnelle à tirer en disant, ouah, j'ai eu une super idée que les autres n'ont pas eu. Non, on était vraiment dans un courant, quelque part.
Ouais, ouais.
Et ce qui est très agréable, c'est qu'on était dans la période où ce courant débutait. Donc, on n'est pas coincé par des règlements, par des choses qui sont prévues. On n'est pas coincé par des filières, par des machins. Tout est inventé.
Mm-hmm.
Donc, là, c'est une opportunité exceptionnelle que j'ai eue.
Donc voilà, donc tu as fait plein de différents projets déjà très jeune. Et puis après, il a bien fallu t'orienter dans tes études. Donc finalement, qu'est-ce que tu as fait dans tes études ?
Alors à l'époque, on n'avait pas les filières, je dirais, dédiées, comme les fameuses gestions de la nature en HES, etc. Donc c'était la biologie, simplement, à Genève. Donc je suis rentré en biologie, j'aurais pu aller à Neuchâtel, ce qui était quand même nettement plus naturaliste. Mais j'étais en biologie à Genève, et puis bon, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon travail de diplôme sur la perdrix, déjà. Donc c'est clair que pour moi, les choses étaient quand même claires depuis des années. Hein, je veux dire, les années collège, donc c'est les années où je me suis occupé du groupe des jeunes de nos oiseaux. Donc là, on est déjà, on dirait aujourd'hui qu'on est dans un milieu semi-professionnel, parce que voilà, c'était de l'associatif quand même organisé, etc., etc. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir faire quelque chose de naturaliste à Genève, donc en m'occupant des perdrix. C'était en fait, à l'époque, le chef du département qui s'occupait des questions nature, qui est M. Éric Matet, qui était donc un forestier à l'époque, hein, ça remonte déjà. C'est pour expliquer un peu la transition, je veux dire, la personne qui s'occupait d'un département qui a pour thème, entre autres, la nature, était un forestier.
Ouais.
Et j'ai eu la chance de pouvoir faire ce travail sur la perdrix, qui a été incité un petit peu par Matek, qui à un moment m'a dit « Mais j'ai entendu dire qu'il y a des choses qui se passent, des personnes ont envie de faire certaines choses sur les espèces dans les milieux ouverts, cultivés, etc. etc. » Et c'est parti comme ça.
Et donc, ton travail de diplôme, exactement, enfin rapidement, de quoi...
Alors, c'était justement de regarder ce qu'on pouvait faire pour ces populations de perdrix qui étaient en train de décliner sur Genève et dans l'ensemble de la Suisse, sur l'ensemble du plateau suisse. Donc, la question, c'était de se dire, bon, une espèce décline, quels sont les facteurs qui interviennent dessus ? Évidemment, la première chose qui est venue, c'est la gestion du territoire.
Mmh.
Alors, à l'époque, il faut comprendre que la gestion du territoire sur des zones de structure temporaire, les prairies, les jachères, les choses comme ça, c'était pas du tout développé. À l'époque, on s'était déjà occupé, en fait, de ce qui était vraiment permanent, comme les forêts, ouais, les étangs, les choses comme ça. Mais c'était assez nouveau, quand même, de prendre en compte la notion de ces choses qui sont du chenil pour
ouais,
un agriculteur,
ouais, ouais,
basiquement.
On n'imagine pas que c'est utile.
C'est du chenil, c'est quelque chose qui est plutôt à éliminer que quelque chose qui est à conserver.
Et du coup, donc, ta thèse, une fois qu'elle, ton diplôme, une fois qu'il était fait, ça a donné quelque chose ?
Alors, ça a donné quelque chose déjà avant que ce soit terminé, parce que j'ai fait une rencontre quand même.
Ah.
C'est-à-dire qu'au détour d'une gravière, je suis tombé sur une personne qui était toute seule aussi. Voilà, on est en semaine, un matin, à 6h du mat, on trouve quelqu'un aussi intéressé par la perdrix de manière totalement indépendante, qui est toujours Bernard Lugrin. Donc, en fait, on s'est mis d'accord, on s'est dit qu'il y avait un projet à faire, et on a été les deux présenter le projet perdrix tel qu'il a été appelé à la station ornithologique suisse.
Ah,
c'était
génial.
En janvier 91.
Wow.
Donc en janvier 91, alors à l'époque j'étais quand même celui qui a mis le truc en place malgré tout. Après ça a changé après plusieurs années, c'est plutôt Bernard qui a pris la position de celui qui gérait, etc. Mais donc à l'époque c'est un petit peu, j'arrive avec mon petit vélo à la station avec Bernard sur le porte-bagages. Et puis on arrive en leur disant, ah ben voilà, on a une idée. C'est que la perdrix, c'est quand même un animal qui est intéressant, qui représente justement ce qui se passe dans les zones cultivées, de plaine et autres. C'est un bon bio-indicateur et on aimerait pouvoir faire quelque chose qui travaille sur le milieu, sur la gestion de l'espèce, etc. Et on avait en face de nous Niklaus Bindon, à l'époque, qui est à la retraite maintenant, qui était le directeur scientifique de la station. J'ai blablaté pendant une vingtaine de minutes avec Bernard à côté de moi qui disait oui, oui, oui. Et puis après 20 minutes, les types, ils ont fait « Oh, mais c'est exactement ce qu'on cherche !» Voilà, donc
c'est trop bien.
C'est un peu une époque bénie, je veux dire, ouais, il faut être clair.
Ouais.
Hein. C'est que malheureusement, les choses évoluent de toute manière. Il s'est trouvé que c'était l'époque où c'est type de travaux se mettaient en place,
ouais,
où il y avait une grande facilité pour réussir à rentrer là-dedans. Donc ça nous a permis en fait d'être engagés dès janvier 91 à la station ornithologique suisse. On se partageait un plein temps pour justement gérer, cette gestion du milieu, alors que le terme lui-même n'était pas vraiment utilisé. Et c'est ce qui a donné naissance à la mise en place de tous les différents types de bancs d'abri dans la zone de la Connaît, etc.
Ah,
donc effectivement, sur 7 km carrés dans la Champagne genevoise, on a eu des sous, c'est quand même le nerf de la guerre, on a eu des sous pour mettre en place les choses. Donc on avait le service cantonal, la station ornithologique suisse qui avait les fonds pour pouvoir payer les agriculteurs pour mettre en place ces structures diversifiées qui étaient les bancs d'abri. Donc ça a commencé début 91. Et puis il se trouve qu'ensuite, une année plus tard, en participant au comptage de lièvres fait par le bureau Écotech, une année plus tard, j'ai été engagé aussi par le bureau Écotech. Donc pendant pas mal d'années, j'étais en fait à moitié à la station ornithologique suisse et à moitié à Écotech.
Et c'est là où on arrive au moment où, bien des années plus tard, on s'est rencontrés. Donc c'était effectivement avec ces recensements de lièvres. Donc toi, tu es notre maître lapinou vénéré. Et alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qu'il en est ? Donc, pour nos auditeurs, donc, nous, on vient chaque année t'aider et on passe la nuit en combinaison de ski parce qu'il fait froid, parce que c'est à peu près février-mars, avec des énormes lampes directement branchées sur le moteur de la voiture pour chasser les lapinous.
Voilà, alors, vas-y. Cadrille les zones, explique-nous comment ça fonctionne et à quoi ça sert.
Voilà. Alors, il y a toute une méthodologie précise, mais ça peut être bien résumé. Le but, c'est dans une zone ouverte, donc grosso modo une zone cultivée, de définir des limites qui sont assez fortes biogéographiquement parlant, c'est-à-dire des lisières forestières, des grandes routes, des cours d'eau, etc. Ce qui veut dire qu'on est sûr de compter à peu près la sous-population qui se tient à cet endroit-là. Une fois qu'on a défini le secteur, toutes les zones ouvertes doivent être prospectées, c'est-à-dire qu'on doit absolument visualiser toutes les zones qui sont les plus favorables au lièvre. On ne va pas prendre le débat sur le lièvre forestier, parce qu'on pourra continuer.
On fera une sixième émission
voilà.
Avec ça.
Grosso modo, le lièvre est quand même un animal deux zones ouvertes qui est venue dans nos contrées grâce à l'extension de l'agriculture, depuis les plaines steppiques de l'Est, etc. Donc, il faut vraiment réussir à observer toutes les zones ouvertes avec un projecteur.
Et c'est pour ça qu'on fait tous les chemins de chaque commune quand on quadrille avec toi pendant une soirée.
C'est pour ça qu'on fait 54 fois le même chemin pour tourner
autour
du bon champ, etc. etc. Oui, oui. Alors, en gros, c'est voilà, vitesse maximale 20 km/h quand tout va bien. C'est-à-dire quand vraiment le champ qu'on a à côté ressemble plus à un terrain de golf qu'une jachère. Sinon, on va beaucoup plus lentement, etc. Et en gros, on arrive à faire des secteurs qui font dans les 5, 6, 7 km carrés par nuit. Et dans certains cas, il y a plusieurs équipes, on arrive à une organisation alors qui est déjà plus militaire. On a,
c'est clair.
On a eu des cas, alors on ne le fait plus maintenant, mais il y avait un secteur de la plaine de la Broye qui était sur Fribourg et Vaud. Il y avait 5 équipes à coordonner
en
même temps.
Oh la vache.
Wow.
Donc 5 équipes en même temps. Autant vous dire que voilà, 20 personnes, 5 véhicules qui vont se mettre dans la boue toute la nuit, donc la moitié
oui, parce
peuvent...
que des fois, c'est pas tout à fait sec. Hein,
non, pas tout le voilà. temps.
On a 2-3 souvenirs d'embourbement, ça, c'était sympathique.
Voilà, donc il y a toujours... voilà. C'est clair que là, on est sur une organisation qui doit être carrée. Quoi. On ouais. peut pas faire autrement. Donc c'est équipe rouge, équipe bleue, équipe violette, ouais, ouais, machin. Clair. Quand vous avez terminé, vous appelez les autres pour aider les autres à finir, et autres, et autres. Donc ça, c'est un peu différent.
Alors, on va faire juste une petite pause maintenant parce que je crois qu'il est largement l'heure de faire une pause musicale. Alors, Jean-Laurent, est-ce que tu as pensé à une chanson pour notre petite coupure ?
Alors oui, comme vous me l'aviez demandé, j'ai réussi à y penser. Donc, effectivement, on va prendre « Que restera-t-il d'un chant d'oiseau » de Jean Ferrat. Donc, qui est typiquement une chanson qui montre un petit peu la manière dont il y a quelques décennies, on était conscient du problème, mais c'était le début. C'est assez généraliste, on ne rentre pas dans les détails, on ne fait pas de la science pure et dure, on est plus dans l'émotionnel direct, etc. Mais ça montre bien un petit peu que le souci de cette nature est une chose ancienne, est une chose de tout temps.
Et qu'elle est toujours d'actualité.
Ah oui, il parle de pollution dans sa chanson, ça n'a pas changé malheureusement. Donc, alors on écoute ça.
Que restera-t-il sur la terre dans 50 ans? On empoisonne les rivières, les océans. On mange des hydrocarbures. Que sais-je encore? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? Le monde a perdu la boussole, qu'a-t-il gagné? Des plages noires de pétrole pour se baigner. L'atome va régner sur terre comme un seigneur. Qu'en ferons-nous? C'est une affaire qui me fait peur. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? À peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà pourrissent les pommes des nouveaux temps. Enfants, enfants, la terre est ronde, criez plus fort pour que se réveille le monde s'il n'est pas mort. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux?
Radio Cité Genève.
C'était « Restera-t-il un chant d'oiseau » de Jean Ferrat. Vous êtes de retour dans Genève côté nature avec aujourd'hui un côté passion dans lequel nous découvrons Jean-Laurent Régamet, un biologiste qui travaille dans le bureau d'études d'Écotech. Donc dans la première partie de cette émission, nous avons rencontré Jean-Laurent et il nous a amené dans sa passion de la nature. Et on était en train d'expliquer, juste avant la pause musicale, les recensements de lièvres qui se font une fois par année. Alors Jean-Laurent, quel est le but ? Donc on a parlé de comment se passe un recensement, donc on est dans la voiture, en pleine nuit, on regarde chaque chemin d'un secteur pour essayer de repérer tous les lièvres qui s'y cachent. Mais pourquoi en fait est-ce que c'est très intéressant comme étude ? Pourquoi est-ce que tu fais cette étude depuis combien de temps ? 30 ans ? Combien de temps ?
Oui, 30 ans, effectivement, ça a commencé, les premiers recensements qui ont été faits dans le cadre de ce qui s'est appelé une étude fédérale du lièvre, c'est 1991, et c'est depuis 1992 que le projet a été formellement nommé et établi. Donc, le but, c'est de se dire, on a des zones cultivées qui ont un intérêt biologique, ce qui n'était pas évident à l'époque. Avec le lièvre, on avait une espèce bioindicatrice qui était parfaite pour être un baromètre de la santé des milieux cultivés que l'on voulait observer.
Voilà, donc les espèces bioindicatrices, donc c'est des espèces qui ne seraient pas là si les conditions n'étaient pas réunies pour sa présence.
Voilà, des espèces qui sont sensibles à toute atteinte de la qualité biologique de ces milieux. Et en Suisse, quand j'ai parlé de perdrix et lièvres, ben, c'était deux sujets qui se complétaient parfaitement parce qu'on avait justement la possibilité d'avoir une espèce exigeante au niveau de la qualité biologique du milieu, qui est la perdrix, mais qui se trouvait seulement sur en fait trois zones en Suisse. Et puis, on avait la possibilité de travailler sur une espèce moins exigeante, mais au moins qui était répartie sur tout le plateau. Donc, on pouvait travailler partout, c'est le lièvre. Donc, avec ce lièvre, on fait un monitoring, quelque part, un terme qui n'existait pas évidemment, on fait un monitoring des zones qui sont avec des valeurs biologiques temporaires de végétation, etc. Et sur ces zones, on a la possibilité de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Typiquement, lors du début de l'étude, la personne qui a mis la méthode au point a défini que le seuil de viabilité pour une population à long terme était de 6 lièvres au kilomètre carré.
Ah oui, 6 lièvres.
Or, on se trouve actuellement en Suisse, en moyenne, à 3 lièvres.
Ce qui est peu. Ouais, donc on a la moitié de ce qu'on devrait avoir.
On a la moitié de ce qu'est le seuil de survivabilité. Ouais. Parce que ce qu'on devrait avoir, ça c'est non seulement une question scientifique, c'est une question politique. Donc ce qu'on devrait avoir, moi je vous dis, mais 40 lièvres au kilomètre carré et pas 6.
Mais jamais on les aura, les 40.
Mais il se trouve que certaines personnes ne sont pas d'accord.
Bon, après c'est très hétérogène sur la Suisse. Je sais qu'à Genève, on a bien plus que 3 lièvres au mètre carré, on a même dans les recensements des doses énormes. Ça dépend des secteurs.
Ouais. Alors effectivement, sur Genève, on est entre 15 et une quinzaine de lièvres au kilomètre carré, grosso modo, que ce soit sur Arvelac ou sur la Champagne genevoise, le côté ouest du canton. C'est les meilleures situations de Suisse avec la plaine du Rhin saint-galloise. Le premier élément qui était important pour nous, c'est qu'avec cette étude, on pouvait établir une certaine gestion du territoire. C'est-à-dire se dire, voilà, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe mal. Les lièvres sont en chute libre et autres. Très clairement, le milieu est banalisé, il n'est pas assez diversifié. Donc, c'est typiquement une zone où il serait intéressant de mettre en place un programme de revitalisation, mise en place de jachères, plantation de haies, etc., remise à ciel ouvert des fossés et autres. Donc, typiquement, c'est la première. Le premier élément qui est important, c'est que c'est un levier, cette étude, pour pouvoir faire ces mises en place et vérifier que les méthodes qu'on utilise sont les bonnes.
Bah oui, parce qu'à force de le faire chaque année, on peut avoir des constats.
Et puis on commençait, c'était le tout début. Je veux dire, c'est bien gentil, mais enfin, faites une jachère, d'accord ? Vous la faites comment, la jachère ? Je veux dire, vous bousillez tout avant, vous laissez simplement, après que vous ayez récolté votre champ, vous laissez tout sans labourer.
Ou bien personne ne savait les modalités. Quoi.
Voilà. Donc, typiquement, ça a permis déjà d'établir quand même certaines procédures, etc., qui sont importantes, et d'intervenir sur la gestion du territoire, typiquement. Ça, c'est la première des choses. Un autre point qui est important par rapport à cette étude, alors on est moins sensible à ça sur Genève, c'est la question de la gestion des espèces chassables, de la chasse.
Ah bah oui. Oui, parce que Genève est le seul canton de Suisse où la chasse est interdite.
Oui, depuis 1974, donc. Et effectivement, nous travaillons sur l'ensemble de la Suisse romande. Bon, alors, le programme est fédéral. Donc, le programme a lieu sur l'ensemble du plateau suisse. Il y a plus de 120 régions qui sont traitées, donc, par rapport à ces recensements de lièvres. Personnellement, dans le cadre du travail fait par le bureau Écothèque, j'ai travaillé aussi sur le canton de Vaud et j'ai eu travaillé sur le Valais, sur Fribourg, sur Neuchâtel, un petit peu sur le Jura. Donc toute la Suisse romande. Et dans le canton de Vaud, par exemple, pour prendre cet exemple, le fait d'avoir les densités de lièvres qui sont très clairement établies sur des grandes zones comme la plaine de l'Orbe, ça permet d'établir de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus adaptée à la faune le plan de chasse.
Ah oui, évidemment.
Et clairement, quand on a commencé dans les années 90, on a commencé en 91, la plaine de l'Orbe, on avait des densités qui étaient très basses, qui étaient de l'ordre de 1,5, quelque chose comme ça.
Okay.
Et typiquement, pendant, je ne sais plus, mais peut-être 6 ans ou quelque chose comme ça, cette étude a été le levier qui a permis de faire une interdiction de chasse du lièvre dans la plaine de l'Orbe.
Ah ouais, cool.
Okay. Ce qui a permis... Parce que les effectifs étaient vraiment...
Voilà.
C'était scientifiquement prouvé qu'ils étaient trop bas.
Voilà. Donc là, il n'y avait plus de discussion vraiment qui était possible,
ouais,
je dirais, au niveau politique. Il y avait réellement un problème. Et ça a permis effectivement de relever les effectifs. Et maintenant, on en est aux alentours de 6-7 lièvres au kilomètre carré. Donc
okay.
On est déjà au moins au-dessus du seuil minimum.
Voilà.
Donc, ça a permis quand même vraiment de relever la population dans ces zones-là.
Ouais.
En plus de ces questions gestion de la faune et gestion du territoire, il y a d'autres éléments qui ont été révélés, qui se sont mis en place par rapport à cette étude. C'est notamment, puisque ça a perduré pendant 30 ans, de réussir à comprendre d'une manière plus fine l'évolution profonde des territoires pendant 30 ans,
mmh.
au niveau de ce qui se passe sur la qualité vraiment fine du milieu, la qualité des eaux qui provoquent certaines choses, etc., sur la manière dont les corps des plantes adventices peuvent se développer ou disparaître et autres. Ça nous a quand même apporté énormément d'indications, je dirais, plus fines.
Ouais,
ce niveau-là.
C'est vraiment une étude qui est précurseur,
qui
a lancé
plein
d'autres choses.
Qui a pu se ramifier, qui a pu se ramifier et établir beaucoup d'autres choses. Donc, sur toutes les espèces qu'on a, ces données sont transmises au CSCF, au Centre Suisse de Cartographie de la Faune. Et l'ensemble permet quand même d'avoir des nouveautés qui apparaissent, des choses qu'on ne savait pas. Il y a des éléments qu'on ne connaissait pas avant. Alors, c'est du détail, mais je prends ces détails comme anecdote parce que c'est significatif.
Bien sûr.
On ne savait pas, par exemple, que les pigeons colombins passaient la nuit essentiellement par terre dans les champs. On ne savait pas.
C'est génial.
Le pigeon colombin, bah oui, c'est un pigeon. On connaît à peu près son habitat. Il niche dans les creux des arbres, machin. On se disait, bah, il doit être branché sur son arbre pour passer la nuit. Et puis, petit à petit, on arrive dans des champs labourés, souvent, etc. Extrêmement nus et au milieu du champ, c'est-à-dire vraiment planqué plus de 100 mètres de tout chemin, on a une tache claire.
Et c'est un pigeon colombin.
C'est un pigeon colombin.
Ouais.
Et on comprend qu'effectivement, tout d'un coup, la stratégie de l'espèce est complètement différente de ce qu'on croyait.
Ouais.
Alors ça, c'est un exemple des nombreux petits éléments qui peuvent être... tiré de cette étude du lièvre, etc.
Tout à fait.
C'est là où on voit qu'une étude comme ça donc, est intéressante dans son objectif principal, mais également dans plein d'autres objectifs un peu alternatifs ou liés, comme tu disais, ramifiés par rapport à l'objectif principal. Alors, malheureusement, je crois qu'on va devoir gentiment s'arrêter parce que cette émission est déjà plus longue que d'habitude.
Bah, c'est comme les côtés passion, comme d'habitude, en fait, on se retrouve entraîné par la passion, justement, de
l'être passionné. Merci beaucoup, Jean-Laurent, d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir participé à cette émission aujourd'hui.
Pour nos auditeurs, dans les prochains rendez-vous Nariès, alors nous venons de terminer les 10 jours de célébration de la fête de la nature, pendant lesquels nous allons proposer 10 activités différentes. Nous pouvons donc reprendre le cours normal de notre vie associative et nous allons avoir du boulot avec toutes les courses d'école qui arrivent à grands pas. Alors, si vous êtes professeur et que vous aimeriez emmener vos élèves dans la nature ou si vous travaillez dans le parascolaire et que vous cherchez des activités à faire avec les enfants, n'hésitez plus et contactez-nous.
Alors Jean-Laurent, merci encore d'avoir été avec nous pour cette émission.
Mais merci à vous, c'était un plaisir.
Et puis on se réjouit encore déjà de l'année prochaine et de notre sortie annuelle de recensement des lapinous.
Avec peut-être quelques espèces rares et quelques jolies photos. On
toujours
sort
possible.
Toujours quelques jolies photos par année.
Oui, tout à fait. Et en attendant, encore bonne chance sur le terrain, dans tes nombreux projets. Et à bientôt.
Et à très bientôt.
Merci, à bientôt.
Genève. Côté nature.